Vous écoutez RMC. RMC.
Hey, il n'y a pas de tension, hein. Tranquille. Elle me regarde. Question suivante.
Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilité.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur. On est bon.
Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit en direct sur RMC, en direct également sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot. L'After est la première radio de France le soir comme toujours, premier podcast de France, votre espace de liberté au 32-16, on vous attend. Supporters du Real, du Barça, de Saint-Etienne, de Paris et des autres clubs de Ligue 1 qui ont joué aujourd'hui. Daniel Riolo vous attend. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreux est là également, salut Florent.
Bonsoir à tous.
Paris bat Saint-Etienne 2-1, Strasbourg gagne à Toulouse 2-1, Angers gagne à Montpellier 3-1, Lens gagne au Havre 2-1. Et pendant ce temps-là, dans la finale de la Supercoupe d'Espagne, match magnifique et victoire de Barcelone 5-2 face au Real Madrid. On avait également un match en Italie ce soir. Naples, leader du championnat, a battu Vérone 2-0. On va parler de tous ces matchs ce soir. Le 32-16 est ouvert, mais tout de suite, comme de tradition, les 3 points. Pour savoir de quoi nous allons débattre.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel.
Le premier point, c'est le très bon match final de Supercoupe d'Espagne et l'énorme raclée subie par le Real, ou plutôt infligée par le Barça. Le deuxième point, c'est le PSG qui s'est pas promené du tout ce soir. Petit match des Parisiens, mais qui leur permet de conforter leur avance en tête du championnat. Le troisième point, les autres matchs, je te laisserai en parler là, puisque vous avez gagné cet après, mais tu dois être content. Je vais juste noter que ce Saint-Etienne-là que je vois ce soir, que j'ai vu la semaine dernière, on va dire depuis qu'Orneland est arrivé, si je suis supporter des Verts, j'ai repris une bouteille d'espoir. Je ne sais pas si j'inventais la boisson espoir, et je pense que je peux m'en servir au petit-déj tous les matins, parce que j'y crois complètement. J'ai une équipe qui joue de cette façon, avec cette volonté-là, j'ose espérer qu'elle ne descende pas.
Florent, tes 3 points.
Mon premier point, c'est justement les Verts, parce que j'ai trouvé que finalement, par rapport à des grosses équipes qui n'ont rien osé contre le PSG, eux, ils ont tenté plus que ce que j'ai vu de certaines grandes équipes, de moins dans les intentions, et ils se retrouvent finalement à 2-1 à la fin du match. C'est mérité, bon, pour eux, c'est 0 point, mais ce qu'a fait Orneland là sur les deux premiers matchs, c'est intéressant. Donc je parle de ce match à travers les Verts, parce que le PSG, bon, a gagné, il n'y a pas grand chose à dire, 2-3 petites choses, on verra dans le turnover, mais c'était pas génial. Le Barça, effectivement, ce match incroyable et dingue contre le Real. Score un peu flatteur quand même pour le Barça, enfin un peu sévère pour le Real, mais match génial.
Ah, flatteur, tant qu'ils étaient à 11 contre 11, ils auraient même pu en prendre plus. Hein.
C'est ouais, mais ils ont marqué à chaque fois qu'ils rentrent à la surface. Quoi. J'ai pas, voilà, c'était.
Ok, mais bon.
Et puis en dernier point, en fait, j'hésitais entre deux, mais je ne sais pas si on aura le temps, mais il faudra parler de la déchéance de Montpellier. Mais il y avait plutôt un troisième point lié à la VAR, et j'en peux plus de ces mains fantômes. C'est-à-dire hier à Rennes Marseille, les deux pénaux n'auraient, enfin l'un n'a pas été sifflé, l'autre
c'était
machin.
Peu, là, mais, on va là, dire que là, ça ressemble plus au règlement, la main du Stéphane.
Ouais, mais même si tu veux, non,
moi j'aime pas
si
ces mains là, mais ça ressemble plus au
si
règlement.
Tu veux, ce qui me gêne le plus dans le match de soir encore, c'est que Benoît Millot, sur le moment, prend la bonne décision, qui est une décision d'instinct. Et qu'après, en regardant, évidemment, quand tu mets 27 fois la loupe et le gros plan, ça... donc en fait, c'est anti-foot, et je trouve que il y en a de plus en plus.
J'ai cru qu'il allait donner le deuxième à la fin. Mais... à la fin, il y a la même. Tu sais que c'était le premier match du meilleur arbitre français au Parc des Princes?
Oh. Ah bah oui, parce qu'avant,
Avant, il était pas dans la bonne ligue, il pouvait pas.
Oui, parce que Benoît Millot, historiquement, était de la Ligue Île-de-France, mais comme il a déménagé dans le sud de la France, voilà. Il dépend maintenant de la Ligue Méditerranée, donc il peut arbitrer au Parc des Princes des Andes.
Prouve bien que ces histoires de localisation n'ont aucun intérêt.
C'est ridicule. Absolument. C'est complètement ridicule.
Ça veut dire que tu présupposes
si
que l'arbitre est parti
pris. Coup, voilà.
Ouais. Bon. Mec, en Ile-de-France, avantage forcément le PSG.
Les gars, ce soir dans l'after, je vous propose un truc pour la première fois, sans doute, un dimanche soir. On va démarrer par autre chose que par la Ligue 1. Alors déjà, pour deux raisons. Un, parce que le match Barcelone-Madrid était en clair, en gratuit. Hein, sur la chaîne L'Équipe, en l'occurrence, à 20h, et qu'il était magnifique, deuxième raison. Alors qu'en face, Il est aussi sur RMC d'ailleurs. Alors qu'en face, on avait un match de Ligue 1, un peu attendu, un peu bof, qui a sans doute été regardé par moins de monde mécaniquement, puisque les abonnés de DAZN sont forcément moins nombreux que ceux qui ont pu regarder le match gratuit.
Déjà qu'un match de ce niveau-là soit gratuit Real à la télé française, ça devait faire des années que ça n'était plus le cas.
Ouais.
Que l'opportunité soit donnée à des
téléspectateurs
français de voir un tel match gratuitement, je crois qu'il faut remonter, bah, il faut aller vers une finale de Ligue des Champions, qui historiquement est toujours un match gratuit, mais sinon, il n'y a pas. Donc, c'était une sorte de cadeau et j'aimerais savoir envers les audiences demain.
Il n'y a peut-être même jamais eu de Barça à Real en clair.
En gratuit ?
En gratuit.
Sauf, peut-être t'as raison, peut-être parce que même en Ligue des Champions, si ça n'a pas été en finale, ça ne pouvait pas être gratos, t'as raison.
Peut-être TF1 à une époque ?
Mais je ne vois pas, il ne passait pas ces matchs-là non, à l'époque. Non, non.
Edgar Grolot est avec nous, correspondant d'RMC à Madrid. Salut Edgar.
Salut Gilbert, salut messieurs, salut Edgar. Tout.
Alors, 5-2, alors il y en a eu dans l'histoire des Real Barça des scores de fou, hein, évidemment. Il y a même eu, je crois, en 2018, le Barça qui en a mis 4 au Real. Mais enfin, là, ce soir, on a vu un match dingue, avec un scénario dingue, avec, enfin, je veux dire, là, les afters espagnols ce soir vont se régaler parce qu'ils peuvent y aller pendant 3 heures. Hein, il y a 1000 choses à analyser.
On a déjà vu des scores de ce genre-là. Là, il y a quand même. Oui. Alors, d'abord, on sait là, à quel point, à chaque point, tous ces matchs et tous ces scores sont décortiqués en Espagne, et surtout, ça fait deux dans la même saison, à quelques mois d'intervalle. Et donc, forcément, ça va être évidemment très mal perçu au Real.
En Liga aussi,
je veux vite savoir, dès que ça va tomber, Edgar, les réactions des premiers médias madrilènes pour savoir comment ils vivent cette défaite qui ressemble à une énorme claque, encore une fois.
Oui, bien sûr. Déjà, côté catalan, on se dit que ça peut être peut-être un point de bascule de la saison. C'est ce qu'écrit Mundo Deportivo, par exemple. Et côté madridien, en fait, c'est dur de désigner un seul coupable ce soir au niveau des joueurs, parce que il y a pas grand-chose à retenir si ce n'est finalement le match de Kylian Mbappé qui lui est bon. Là, le coupable ce soir, c'est clairement Carlo Ancelotti pour la plupart des médias, parce que ça fait deux fois quand même qu'il est surclassé par Hansi Flick. Ça fait deux fois que son équipe est absolument surclassée. Et j'aime bien la formule qu'utilise Marca, qui dit que sur les deux matchs, il y a une équipe qui mord et il y a une équipe qui la regarde. Et c'est le sentiment aussi qu'on avait la majorité du match ce soir, c'est que tu as une équipe qui fait des vagues et des vagues et des vagues d'attaques et l'autre en face ne réagit pas. Il y avait des séquences où Vinicius et les autres attaquants ne revenaient pas défendre. Il y avait des séquences où on voyait des joueurs marcher alors qu'en face, ils étaient morts de faim à 5-2 à la 90e alors qu'il n'y avait plus rien à jouer. Et il y avait clairement... collectivement une différence de niveau entre les deux équipes sur les deux matchs, puisqu'on rappelle que le Real est devant le Barça en championnat, mais sur les deux matchs, il n'y a pas photo, et se prendre deux claques comme ça dans la même saison, non seulement ce classico est à nouveau historique, mais deux classicos comme ça historiques dans la même saison, ça fait très mal au crâne.
Alors, puisque tu parlais, Edgar, du collectif et des choix d'Ancelotti, bah, parlons de l'audace qu'il a priori de tenter quelque chose avec on va dire un quatuor offensif, si on intègre Bellingham à ce quatuor offensif et qu'on dit qu'il est plus offensif que défensif, même s'il est un peu capable de tout faire et que selon la sauce à laquelle on le met, il est évidemment capable d'être dans un milieu. Mais là, ça faisait plus 4-2-3-1, une compo qui face à un collectif comme le Barça avec son milieu à 3 où ils vont essayer de garder le ballon et où techniquement ça va être d'une grande justesse, ils ont les moyens de morfler. On pouvait très bien envisager quelque chose avec un milieu un peu plus renforcé du côté du Real. Le problème de ce milieu du Real, c'est que techniquement il est large en dessous de celui qui est en face, je trouve. Et que il s'est fait. Alors oui, Flo a raison quand il dit ils ont été d'une terrible efficacité. C'est-à-dire qu'à chaque attaque où il passait, ça faisait but. Mais quand t'as des joueurs de cette qualité-là sur l'égalisation de Yamal, sur ensuite ce qu'on voit des attaques, le festival Rafinha, oui, mais c'est oui, ok, t'es efficace. Mais de toute façon, quand t'as des joueurs de cette qualité, c'est globalement ça le résultat. C'est qu'à chaque fois que tu viens près du but. Si j'essaye un parallèle, mais alors à 10 000 kilomètres, je sais pas combien de kilomètres il faut mettre, mais Saint-Etienne ce soir, dans la surface du PSG, ils sont souvent rentrés dans la surface. Sauf que quand t'as pas la technique, quand t'as pas le dernier geste, la dernière passe, le mec capable de faire la frappe, enfin tout ce que tu veux, bah, tu marques pas et tu te retrouves à 0,18 d'expected goal, alors que le Barça, ça donne tout autre chose. Bon, j'ai vraiment tenté ce parallèle très très osé, j'en conviens. Mais collectivement, c'est là, je trouve que le Barça donne une leçon et que le Real affiche un visage qu'on comprend pas trop en fait. Je comprends pas trop. Camavinga, moi, parfois, je le trouve bon et dès que le niveau est vraiment élevé techniquement, d'un coup, je le trouve beaucoup plus quelconque.
Ouais, mais oui, enfin, je peux te permettre juste.
Son match, c'est sûr.
Ouais, il y a juste un point sur le milieu, c'est que je pense que Ancelotti a un peu tué son milieu de terrain. C'est-à-dire que évidemment, il a tenté.
Est-ce qu'il a le choix?
Mais est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il a le choix politique? Parce que finalement, tu as Bellingham, Vinicius, Mbappé sur le terrain. Et après, effectivement, si tu fais pas cette compo-là, tu dois faire des choix qui sont plus compliqués.
Ah, mais le choix, je trouve que Rodrigo qui paye. Hein.
Je trouve que Camavinga est victime plus de choix tactiques d'Ancelotti que de sa mauvaise performance. C'est difficile d'exister contre le Barça qui a 3 dans ce secteur de jeu. Je pense que la bataille a été perdue là, alors que le Real a ouvert le score. Donc toi, c'était pas un problème ni d'envie ni psychologique. Je pense que ça n'était qu'une question de temps et le Barça après a roulé sur le Real parce que la bataille du milieu a été gagné par le Barça.
Et Daniel, tu demandes s'il a le choix au milieu de terrain, mais quand même, il faut remettre les choses en perspective. Évidemment, Toni Kroos n'est plus là, mais tu regardes l'effectif au milieu de terrain du Real Madrid. T'as quand même, on va compter Bellingham dedans. Bellingham, Camavinga, Valverde, je mets Tchouaméni aussi dedans, Luka Modric, Ceballos qui est quand même très copain avec le ballon. C'est pas normal de pas réussir à faire mieux.
Oui, sauf
quand même que ce qu'on voit.
Raison, Real Madrid, comment il équilibre l'équipe?
Non, mais attends, déjà, attends, il n'y a pas que ça. Avant, tu peux de cette liste mettre des bémols. Tchouaméni. Pourquoi on le descend? Parce que déjà au milieu, il y a des questions qui se posent
bien
sur lui. Modric, bon bah là pour d'autres raisons, il y a des questions de rythme et de fin de carrière et bref de roulement, de rotation qui se posent sur lui. Donc tu réduis vite ta liste hein, quand même par rapport à un milieu compétitif.
C'est sûr que c'est inférieur à ce qu'ils avaient il y a quelques années et encore il y a deux ans.
C'est même pas que c'est inférieur quoi. On est à des années-lumière. Non, le seul truc à faire sur un gros match.
C'est pas des mauvais joueurs de football quand même.
C'est de tenter Bellingham, Vinicius, Mbappé, donc de pas mettre Rodrigo qui va payer le pauvre. Mais dans ces cas-là, il faut trouver un autre milieu à mettre. Et c'est à ça que va ressembler l'équipe. Sauf qu'en faisant ça, tu sais jamais réellement où mettre Bellingham. Donc en fait, on se retrouve de toute façon face à quelque chose qui est, bah oui, un peu de politique, comme disait Flo, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as pris Mbappé et que t'as Vinicius en même temps, déjà t'auras un souci parce que les deux défendent peu, et t'auras un souci de positionnement de l'un et de l'autre, sans parler que, il faut dire la vérité, Vinicius, très honnêtement, ok, depuis le début de la saison, parce que c'est un gars qui est au-dessus, il a fait une poignée de bons matchs, mais franchement, moi, ses performances sont nettement en baisse cette année à Vinicius. Je sais pas si tu es d'accord, Edgar, mais il est vraiment en dessous.
Surtout, ces dernières semaines, honnêtement, c'est difficile de parler de football quand on parle de Vinicius parce que c'est.
Mais Vinicius, il est en train de s'enfermer dans autre chose depuis cette année. Moi, Vinicius, je le trouve absolument insupportable dans à peu près tout ce qu'il fait. Maintenant, je reconnais des qualités qui sont extraordinaires, mais quand il est bon, mais là, pour moi, il est en train de se perdre, il est en train de je sais pas, il vise autre chose. Il y a pas un match où il pète pas un plomb, il est je sais pas.
On est peut-être sur aussi le premier grand match de la saison où il y a pas grand-chose à reprocher à Mbappé.
Ça c'est vrai.
Ah mais il fait un très bon match.
Et
sincèrement, il se blesse. On va rappeler quand même. Donc il met un but en solitaire à la 5e minute. Après c'est lui qui provoque. Donc après il sort 5 minutes parce qu'il est touché à la cheville gauche. On a même cru qu'il allait sortir. Il joue par moment presque sur une jambe parce qu'on le voyait poser son pied à moitié sur le sol, etc. Sur des accélérations, il fait des choses sincèrement qu'on n'a pas vu depuis son arrivée au Real Madrid. J'aurais aimé voir son match complet sans être blessé ce soir parce que c'est lui qui provoque l'expulsion en fin de match encore à la 90e alors qu'il joue sur une jambe, il fait des accélérations, il met Koundé dans le vent, il fait un moment une roulette puis une talonnade pour Bellingham absolument magnifique. C'est vraiment très intéressant et c'est frustrant parce qu'en fait c'est deux meilleurs matchs de saison. J'ai presque envie de dire que c'est celui-là par moment et celui contre l'Atalanta où il se blesse aussi au bout d'une demi-heure.
Donc, moi je suis sûr que Vinicius est dans sa dernière année. Je pense que tout Madrid et Florentino Pérez en ont soupé de son caractère. Et que le Real va faire peut-être année de transition. Ils peuvent être champions, hein, tu me diras, ce qui sera pas du tout une transition. Mais en tout cas, dans l'effectif, je vois un peu une année de transition et peut-être une sorte de reconstruction de pas mal de choses.
C'est que le paradoxe de ce résultat, c'est que c'est peut-être le soir où Mbappé te prouve qu'il a retrouvé notamment ses jambes. Ouais. Parce que ce qu'il fait sur le premier but, même ce qu'il fait sur le premier but, alors que ce n'est qu'à la cinquième minute, déjà, c'est des choses que, dans le rythme, et même alors qu'il est sur les défenseurs, où il n'arrivait plus à faire la différence, où il a refait la différence, il a remis même là, une sorte de balle piquée pour finir.
Quand tu cours, t'as l'impression que là, tu le revois courir.
Tu retrouves un peu ça. Après, sur Mbappé, c'est une chose, mais sur l'équilibre général, effectivement, bon, on sent qu'il y a un souci à Madrid. Il faut dire quand même que de l'autre côté, on parle beaucoup d'Yamal, on connaît Lewandowski. Il y a des joueurs comme Koundé qui font des saisons maintenant énormes, mais il y a Rafinha.
Rafinha
est exceptionnel.
Depuis le temps que je dis que c'est le meilleur joueur du monde.
Ah, franchement, là, oui, par rapport à Mbappé,
c'est pas Mbappé, hein, c'est ouais. Des fois, tu nous vends Mbappé. Non, non, mais Rafinha, il est
vraiment stratosphérique.
Je sais pas, top 3, top 5, j'en sais
donc,
rien.
Si
top
veux,
5, oui, avec Salah en ce moment, si avec ce genre de mec-là.
Il est
fou en ce moment.
Tactiquement, t'as le milieu, ok, on l'a dit, on a expliqué tout ça, mais après, t'as aussi individuellement, t'as quand même un truc de fou avec un des meilleurs neufs d'Europe du monde, Lewandowski. Bon, qu'on connaît par cœur, Yamal, ok, Rafinha, qui a eu des périodes particulières, un peu différentes dans sa carrière récente, et qui là est dans la forme de sa vie.
Que ce gars-là, alors j'ai pas de souvenir, il paraît que ce mec-là joue à Rennes.
Il joue à Rennes.
Mais non, pardon, je plaisante.
Dembélé aussi. Il y a eu du beau monde.
C'est vrai. Ouais.
19 buts, 9 passes, hein, Rafinha, cette saison.
Ouais, c'est absolument dingue. Et surtout dans
la. Là est devenu capitaine, surtout du.
Ouais, c'est ça. Club. C'est-à-dire qu'il a pris une dimension, même au Brésil d'ailleurs, mais avec le Barça, qu'on ne s'attendait pas à lui voir prendre. Donc il se trouve qu'ils ont une sorte d'alignement des planètes. Et Flick qui prend son trophée. En fait, on a l'impression que c'est une année de dingue à laquelle on s'attendait pas quand même à ce point.
Edgar, est-ce qu'il y a mal son égalisation, c'est classe internationale. Mais est-ce que malgré tout, par ailleurs, il est réellement en grande forme en ce moment?
En grande forme, non, parce qu'il revenait de blessure. Il revenait de blessure, ouais. Donc il a raté quelques matchs. Ouais. Mais voilà, il a marqué en demi-finale. Là, ce soir, je trouve qu'il fait un très bon match, même s'il est obligé de sortir
vraiment,
après à la 59e, parce qu'il paye notamment le carton rouge de Chesney. Mais franchement, pour un joueur qui revient de blessure, c'est impressionnant, surtout à 17 ans. Et ce qui me plaît beaucoup chez Lamine Yamal, est-ce que
tout l'assurance dans l'égalisation, alors qu'il peut décaler s'il veut le ballon et tout, il dribble, il place, la frappe, elle est millimétrée.
Ouais. Mais le gars est là dans les grands matchs.
Il fait 2m50, la mettre aussi proche du poteau, aussi parfaite, quelle classe.
Ouais, et ce qui est vraiment convaincant et qui rejoint pour moi Lamine Yamal et Rafinha, ce sont des joueurs, t'as l'impression qu'ils font la plupart du temps les bons choix dans les bons moments.
Absolument.
Sur les phases offensives, et c'était déjà le constat qu'on pouvait faire face au Real lors du match en Liga, et sur la majorité de la phase aller, et pas sur les derniers mois, parce que c'était un petit peu plus compliqué, et notamment parce qu'il n'y avait pas Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal à 17 ans, il fait les bons choix dans des moments charnières, quand son équipe est menée 1-0 en finale de Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid. C'est quand même pas rien, et c'est pas n'importe qui en face, et c'est pas n'importe quel moment.
Je rappelle qu'il y avait toute une tripotée de PSGX, les plus actifs et les plus insultants des réseaux, qui cet été disaient que Yamal, PSG en avait pas besoin parce qu'ils avaient Barcola.
Dans un instant,
ces
Mounir et Léo, 32-16.
Parmi les supporters du PSG, ces gens-là existent.
On continue le débat autour de ce match de Supercoupe d'Espagne.
On a assez peu dit que le Barça a joué à 10 dès la 56e.
Oui, c'est vrai. Oui,
je dis, s'il joue à 11 contre 11, ça peut faire une belle valise en croco.
A tout de suite pour continuer le débat, et ensuite, il y aura la Ligue 1, évidemment, au programme.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h de Daniel Riolo, Florent Gautreau sont là, et Edgar Grandlot également. Et oui, une fois n'est pas coutume, l'after d'un dimanche soir démarre avec un grand match étranger. Mais là, franchement,
c'était écrit. Hein. C'était annoncé depuis des semaines, hein, je vous l'avais dit.
Match diffusé gratuitement en France.
Il faut dire
sur
quand même que sur les
Barcelone
dernières
qui bat le Real 5-2.
Les dernières programmations.
C'est ça le soir pour la Ligue 1, en fait.
Oui, mais la Ligue 1 des dimanches soirs, on a eu Marseille-Le Havre et PSG Saint-Etienne. Hein.
Oh, les deux derniers.
Et la semaine prochaine, Marseille-Strasbourg.
La Ligue 1 doit s'en prendre qu'à elle-même.
Et Strasbourg, ça
et ceux qui travaillent à la Ligue doivent s'en prendre qu'à eux. C'est eux qui nous mettent dans la merde. C'est eux qui ont mis le foot français dans la merde. C'est pas faute de le dire depuis des mois. On a un président de la Ligue et des équipes qui sont au-delà de l'incompétence. Ben voilà, ils se retrouvent ce soir. Mais je rappelle quand même que la semaine dernière, c'est pas si vieux, c'était la semaine dernière, le match qui était censé donner de la visibilité au football français, le trophée des champions, a été placé en même temps que Manchester-Liverpool. Donc, quand on fait déjà une connerie pareille, et là c'était du payant contre payant, là ce soir c'est contre du gratuit. Et pas n'importe quel match, Real-Barça. Alors à la Ligue, ils sont capables de dire que c'est la faute à pas de chance. Mais ils sont mauvais.
Est-ce que vous avez
ils sont, mauvais.
Est-ce que
ils sont en train de nous tuer, ces gens-là, qui dégagent tous.
Est-ce que vous avez une explication au fait que... Il y a peut-être une raison qui m'échappe. Au fait que le match de Trophée des Champions la semaine dernière n'a pas été mis à la place du match de Ligue 1. Tu vois, de switcher.
En prime time le soir.
En prime le soir. Et puisque DAZN avait les deux, c'était pas une perte pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Il valait mieux un Monaco-PSG en prime time, même
en fait,
si c'est
parce que le programme avait déjà été fait.
Il y a un décalage horaire, la théorie. C'est qu'en fait, au départ, il n'était pas dit que DAZN diffuse le Trophée des Champions. Donc en fait, DAZN a dit attendez, nous on a notre case, notre match, on bouge pas. Tu vois? Et en fait, au final, DAZN a aussi pris. Le trophée des
ils
champions.
Ils sont tous nuls, Flo.
Non, mais je veux dire que là, pour ils deux heures, il y avait un moyen assez intelligent d'enlever le trophée des champions
autre,
de la concurrence
argument,
de la première ligue.
Ça faisait peut-être trop tard au Qatar, vu que je crois qu'il y a deux heures d'écart, 21h.
Le décalage horaire, c'est ça qui a joué, hein, principalement.
Ça aurait fait 23h.
L'argument numéro un, c'était
45.
Ça. Ça faisait que tu démarrais là-bas en nocturne, enfin, en plus en nuit.
Ça a raison, mais je pense que
peut-être
c'était.
Peut-être que du coup, les gens seraient arrivés à l'heure. Pour le match.
C'est la coutume. Et c'est la coutume de partir avant la fin aussi. Et c'est la coutume en fait de ne pas y aller surtout.
Tiens, à propos de
sauf
coutume.
Si on les force à y aller.
À propos de coutume et de Qatar, je vais quand même vous annoncer que demain, il faut absolument que vous écoutiez Rotten sans flamme.
Ah,
parce que John Textor.
Interview extraordinaire de John Textor.
John Textor sera demain dans Rotten sans flamme.
Là, on va rigoler.
Et évidemment, on débriefera nous. Dans l'after, l'interview.
Il est possible qu'il y ait du règlement de compte.
On vous le promet, c'est du lourd. Et puis demain, première de Vincent Moscato sur RMC Story aussi.
Ah oui.
Grosse journée. Tout ça le même jour.
Tout ça le même jour.
C'est énorme.
Voilà.
Et un after demain à 22h en plus.
Bon.
À 20h même.
Revenons à 20h avec les drôles de l'âme. Revenons oui, comment va-t-on récupérer Fred Hermel demain soir après un 5-2 en Super Coupe d'Espagne? Alors, décidément, c'est vraiment une grosse journée demain.
Est-ce que le Real l'intéresse encore?
Ah,
est-ce qu'on n'est pas très très loin de l'époque ambassadeur, Ferrero Rocher, tout ça? Est-ce que c'était pas une autre vie pour lui?
En tout cas, ce soir, on n'a pas de nouvelles.
Je pense que
c'était une autre époque.
Fred a envoyé un petit SMS à Carlo pour lui dire que c'est pas grave, que ça va s'arranger.
Tiens, Léo est là, supporter du Real, justement. Salut Léo.
Salut Léo.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel et bonsoir Florent.
Salut. Sur Direct Studio, il y a pas mal de supporters du Real qui nous disent notre principal problème, c'est la défense. À part Rudiger, il n'y a plus personne.
C'est pas faux, hein. Honnêtement. Moi, je suis plus d'accord déjà avec Edgar qui disait que le coupable à pointer du doigt, c'était bien Ancelotti. Il a la rue tactiquement à chaque fois que le Real affronte une grosse équipe. Bilbao, Liverpool, le Barça deux fois. Là, encore plus que lors du match en championnat, j'ai l'impression. Et oui, c'est sûr.
Et si au-delà de la façon dont il aborde tactiquement, il n'y avait pas également une limite des joueurs dans ces matchs-là, dans les matchs dont tu parles?
Défensivement, il y a une limite qui est.
Et c'est pour ça que je disais qu'on est peut-être dans une transition d'effectifs, je précisais.
Ouais, c'est pas faux. Déjà, défensivement, il y a des joueurs, c'est plus possible. Lucas Vazquez, honnêtement, je pense que c'est l'année de trop. Il dépannait bien en remplaçant de Carvajal en défenseur droit, mais là, c'est plus possible.
Mais là-bas, il en est où, au fond, là-bas? Il en est où?
Là-bas, il est blessé depuis un an.
Je sais, mais là, il était sur le banc quand même.
Ouais, il est de retour, mais il n'est pas encore à 100%.
Ouais, c'est ça. Il reviendra sûrement dans une ou deux semaines, je pense, commencer un peu à réintégrer le 11.
Après, il y a le sosie de Fabrice Hawkins qui est blessé également.
Et aussi Tchouaméni.
Militao, parle de Militao.
Oui, Militao.
Parce que Tchouaméni, c'est plus possible. Honnêtement, moi, je comprends pas. Il a été recruté quand même 100 millions d'euros. Ancelotti, il a mis 2 ans et demi à comprendre qu'au milieu de terrain, il ne servait à rien. Honnêtement, il ne sert pas à grand-chose. C'est yaourt nature, c'est que des passes vers l'arrière, c'est que des passes latérales.
Ah, on parle d'un titulaire en équipe de France. Hein.
On parle d'un titulaire en équipe de France, mais avec le Real Madrid.
Non, mais on est d'accord, on est d'accord.
Et quand il descend en défense centrale, c'est quand même un signe que ça ne va pas dans le milieu. Et surtout, c'est qu'il joue défenseur central à la place d'un joueur, d'un jeune, Raúl Asensio, qui a quand même montré à plusieurs reprises depuis qu'il a été intégré dans le groupe, qu'il avait totalement sa place pour jouer des grands matchs.
Mais là, tu es typiquement dans le problème de la construction d'effectifs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on a évoqué l'aspect politique. C'est-à-dire que de devant, évidemment, il y a un aspect politique parce qu'il y a Vinicius Mbappé et Bellingham, si on part milieu ou devant, tu as la même chose derrière. Regarde Tchouaméni, tu le déclasses du milieu à défense. Après, il faut qu'il le déclasse défense, bande touche. Je suis totalement d'accord avec ton analyse. Mais on est dans les limites on va dire de la constitution des effectifs galactiques. Après, tu vois, quand tu regardes le milieu du Barça, là, t'as pas des stars, enfin entre guillemets, estampillés comme tels ou recrutés à prix d'or. c'est là où c'est la claque, elle est surtout là, je trouve, pour Ancelotti. Elle est que lui se dépatouille avec un effectif d'abord en partie vieillissant, donc là c'était l'histoire du milieu de terrain, Kroos, Modric, bon, qui partait. Et derrière, il se dépatouille avec, on va dire, des transferts énormes, mais un manque d'équipe dans son équipe. Donc, oui, effectivement, je pense qu'il s'est trompé ce soir sur le milieu de terrain, mais plus généralement, il va être emmerdé toute la saison avec cet effectif-là, jusqu'à ce qu'un Vinicius parte ou autre la saison prochaine, mais c'est pas le cas pour l'instant. C'est hyper, hyper compliqué. Mais quelque part, c'est un peu une revanche du foot, je trouve aussi. Parce que cette équipe du Barça, avec ses jeunes, avec Yamal et avec ce milieu de terrain notamment.
Oui, parce qu'on c'est vrai qu'on l'a pas dit depuis le début, mais on avait un niveau de jeu, là, ce soir.
T'as un niveau.
C'est magnifique.
Le foot, il est quand même.
Attention quand même. Le Barça, il y a deux, trois matchs. Je mettais pas un pied dans l'autre et on a eu beaucoup de difficultés.
Non mais à la limite, sortons du résultat, comme dit oui. Gilbert. Regardons ce qu'ils produisent. L'idée est avec qui ils le font, avec des joueurs de quel âge, comment, avec quel entraîneur qui a pris les manettes comme ça. C'est là que tu te dis que l'histoire d'un club, c'est bien le côté institution. Le Real, c'est une institution. Là-dessus, il n'y a pas de débat.
Mais l'institution dans le jeu. Il y a parfois des moments où il faut renouveler, où l'équipe est en transition. Oui, ça arrive. Oui, le Real a connu ça. Liverpool a connu ça.
La tradition,
tous les grands
clubs, ce que je veux te dire, c'est que
moment.
Tu gardes avec le Barça cette tradition du jeu qui fait que même plus avec les plus jeunes,
jeu, mais ils ont eu des saisons avec des difficultés.
Ah oui, ça sur là, les résultats, oui. Mais là, ce soir, ce qui me frappe surtout, moi, c'est pas tant le résultat parce que je te dis, ils ont été très efficaces dans la surface. Ça peut être considéré comme sévère, même s'ils ont dominé et ils ont été réduits à 10, il faut le rappeler quand même. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est le jeu. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on regarde les matchs. Vous parlez de la Ligue 1. Peu importe, moi, qu'il y ait des petites ou des grandes équipes, regarde ce qu'a fait Saint-Etienne pendant un quart d'heure. Au moins, j'ai dit, c'est bien, parce qu'au moins, ils sont venus tenter, alors qu'il y a plein de coachs qui nous en ont mis plein la vue, Monaco et compagnie, et qui n'ont rien fait contre le PSG. Donc, si tu veux, tu essaies de te contenter de ce que tu peux, mais en tout cas, tu veux voir des choses, des intentions, des joueurs qui créent, qui font quelque chose. Tu vois, et là, tu regardes Barça Real, tu te dis première chose, tu dis Barça, j'ai envie de les voir jouer.
Même quand ils perdent, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, tu t'es diverti par les matchs du Barça.
Léo, merci beaucoup.
Merci à vous.
Salut Léo.
Salut Léo. On a Mounir qui veut parler de Mbappé. Salut Mounir.
Bonjour à tous.
Salut Mounir.
Salut.
Ça va ?
Salut.
Bon, ouais, pas trop, mais bon.
Ah, t'es supporter de Real, toi aussi ?
Ouais, c'est ça.
Bon, alors, là, on a fait les considérations un peu générales. Parlons de Mbappé. Comme nous, tu l'as trouvé bon ?
Ouais, Mbappé m'a rassuré. De toute façon, ça confirme un petit peu la tendance dans laquelle il était ces 3-4 derniers matchs. Il montait un petit peu en puissance. Et après, comme je le disais, on en parlait avec Lionel et avec Kevin Diaz il y a à peine un mois. Il faut vraiment qu'il garde ce rôle de jouer en rupture. Partir. On dirait qu'il a retenu la leçon du fameux match où il avait fait 9 hors-jeu. Là, je l'ai trouvé beaucoup plus sharp sur cet aspect. Et il partait à chaque fois.
C'était contre le Barça, justement.
Faut qu'il fasse des appels, faut qu'il soit en mouvement, faut qu'il soit en pleine course. Et sous cette condition, je pense qu'il y a moyen d'intégrer Mbappé dans un quatuor qui fonctionne. Parce que le point.
Et ça montre également, excuse-moi, juste te redonne la parole, ça montre également qu'on peut avoir un bon Mbappé dans l'axe.
C'est possible.
Mais bien sûr.
Il faut jouer en manière très verticale, il faut jouer en rupture. Parce que le problème, c'est que en arrivant au Real, il a éteint à la fois Vinicius, à la fois Rodrigo et à la fois Bellingham. Mais c'est pas de sa faute. Enfin, je veux dire, on l'a fait venir, il était content, bon, bref. Mais maintenant, il faut trouver une organisation qui fonctionne. Et cette organisation qui fonctionne, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec Daniel quand il dit que. Vinicius est mauvais, oui.
Non, mais au minimum, l'organisation, elle fonctionne avec un milieu de terrain supplémentaire, mais qui soit un vrai milieu de terrain capable de faire du jeu. Alors, ouais. Tu pourras retourner le problème dans tous les sens. Quand tu as eu Modric, Kroos, je dis pas qu'il faut avoir les deux mêmes parce que c'était stratosphérique d'avoir ces deux-là, mais il faut au moins que tu en aies un de ce niveau-là. Il faut un mec au milieu qui soit capable de faire du jeu, d'orienter. Et là, tu n'en as pas. Mais là, t'en as pas. T'as des mecs, t'as des bons joueurs au milieu, au Real. Mais t'as pas un mec, ou alors il faut que Bellingham. Mais le problème de Bellingham, c'est qu'on n'arrive pas réellement à comprendre dans quel rôle il s'épanouit vraiment.
Non,
quoi.
Mais Daniel, c'est un 9,5. C'est devenu un 9,5. Et en fait, on a mis que des mecs au milieu de terrain, que ce soit Valverde ou Tchouaméni, qui sont bons que lorsqu'ils sont accompagnés de Tolier. Et dans un match comme ça, les mettre les deux au milieu de terrain, en espèce de double pivot avec Bellingham qui joue en quasiment en 9,5. Mais c'est pas possible, c'est du suicide. Donc, responsabilité d'Ancelotti à au moins 70% sur ce match. Et le seul joueur à vocation défensive de l'effectif, Mais c'est Rudiger. Parce que Lucas Vázquez, c'est un ailier droit qu'on a converti parce qu'on n'avait pas le choix. Fernand Mendy, on connaît ses lacunes défensives. Et Tchouaméni, c'est un... Allez, c'est un 6-8. Donc ce qu'il aurait fallu faire, c'est jouer avec Asensio en défense centrale et Tchouaméni en 8 pour essayer de protéger un petit peu la défense et d'essayer d'avoir... Et encore Tchouaméni aussi, lui aussi, il pose problème.
Bah oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vas le remonter au milieu alors qu'au milieu il pose problème, il fait pas une passe vers l'avant. Donc,
ouais, mais c'est quand même mieux qu'en défense centrale, Flo. Franchement, là, en défense centrale, c'est pas possible. Rafinha, tu voyais tout de suite dans son body language qu'il allait challenger Tchouaméni et que c'était un petit peu le mec à aller...
Non, mais ce qui est dingue ce soir, c'est que ce qui est le plus terrible, là où tu as raison, défensivement, c'est clairement impossible de jouer, d'avoir une défense comme ça pour un club de ce standing. Mais ce qui est assez frappant, c'est de voir, c'est pour ça que, pour revenir à ce que tu disais sur Mbappé, c'est vraiment le point positif, parce que ce soir, c'est lui qui était à l'égal des joueurs d'en face. C'est-à-dire que dans ce qu'il a pu faire, y compris dans cette talonnade qu'il fait dans la surface, tu sais, où il fait une passe D après avoir déjà éliminé, où il a recommencé à éliminer côté en rentrant, il a failli marquer manchette de Courtois. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume, beaucoup de courses, beaucoup de volume, et aussi du jeu collectif. C'est-à-dire que ce que je préfère par rapport à ce qu'il faisait quand il s'enferrait un peu dans cette mauvaise période qu'il a connue, c'est que il le fait sans pour autant faire tout pour lui-même et pour sa gueule. Il le fait aussi pour les autres. Je pense qu'effectivement, c'est difficile de se dire ça après une défaite 2-5 contre le Barça, mais ouais, c'est peut-être un moment charnière pour lui, ouais, y compris par rapport à ses coéquipiers.
Et Carlo Ancelotti a dit en conférence de presse après le match qu'il n'allait retenir que le match de Kylian Mbappé et que le reste était à jeter. Mais il a dit lui-même publiquement que Kylian Mbappé était au-dessus du lot ce soir.
Bon. Non, mais il a raison. Il a raison. Il a raison. Après, oui, Mbappé, après, faut qu'il arrête de décrocher et de vouloir porter la balle. Il s'était un petit peu neymarisé sur sa fin de période.
Oui, mais là, c'est peut-être en décrochant qu'il n'est pas 9 fois en jeu aussi ce soir. Tu vois, tu sais que c'est comme ça qu'il prend de la vitesse et qu'il est fort.
Et c'est lui qui gagne le plus de duels du match.
Benzema non plus. Au Real, il y a quand même la capacité, il y a quand même les joueurs pour faire ça. Lui, je lui dirais franchement, juste fais des appels, mets le pied et tu les auras, tes 20-25 buts. Et on se rappellera de toi comme quelqu'un qui a performé. Mais pour l'instant, franchement, je pense qu'il commence à comprendre. Je l'ai vu faire aussi. Je sais pas si vous avez remarqué. Il a fait des efforts défensifs.
Ouais, mais alors ça reste encore.
J'ai pas vu faire ça depuis le début.
Alors, il le fait. Il le fait.
Et on a vu. Malgré tout, de 5-2, il y a quelques enseignements à tirer. Il y a du positif.
Non, et tu as raison. Il l'a fait. Il le fait. Et on avait dit qu'en arrivant au Real, il serait obligé de le faire. Et c'est très bien. Mais c'est quand même peut-être encore sur ce point-là que sur les efforts défensifs, il aura des progrès ou pas, mais quand tu as Vinicius et Mbappé qui des fois lâchent un petit peu leur cet aspect-là du jeu de pressing, voilà, c'est pas là encore où il est au top, mais c'est vrai qu'on l'a vu faire.
Alors donc pour finir, le délire des 8 titres Edgar du Real, c'est mort.
Oui, 7 titres.
C'était 7, pardon. Et par ailleurs, l'Atlético a gagné en championnat aujourd'hui, donc maintenant c'est l'Atlético qui est leader. Donc vraiment
voilà. Oui.
Ça le soir.
Et l'Atlético 44 points, le Real 43 points et le Barça 38 points. Mine de rien, ils ont 5 points de retard sur le Real alors qu'ils avaient marché sur quasiment toute la phase aller, mais voilà, ils ont eu ce trou d'air.
Donc le Real peut encore largement être champion.
Et l'Atlético de Madrid qui a gagné son 14e match d'affilée, c'était jamais arrivé dans l'histoire du club.
Merci Mounir.
Merci Mounir.
Merci les amis, bonne soirée.
Et n'empêche au passage, la déclat d'Ancelotti là de parler, elle est dingue, hein.
Quoi,
oui. Une déclat individuelle.
À part Mbappé,
c'est une déclat
tout,
qui est capitale pour Mbappé. C'est une déclat assez rare de la part d'un coach à ce point. On sait que les coachs n'aiment pas trop sortir des cas individuels.
Je vous dis qu'il y a un ras-le-bol avec Vinicius. Son comportement gaffe tout le monde en Espagne. Je sais pas, Edgar, ce que t'en penses. Mais moi, je sais que Florentino Pérez, il en peut plus. Ça le saoule. Il déteste que des mecs du Real se comportent comme ça. Le fameux tradition, maison blanche et tout. On n'aime pas avoir ce genre de mec-là au Real.
Ça commence à faire beaucoup en ce moment. Après, le truc avec Vinicius, c'est qu'il a une cote de popularité tellement dingue auprès de tous les supporters par rapport à son histoire, par rapport à ses galères du début. Le truc avec Benzema, son combat évidemment contre le racisme qu'il a beaucoup subi en Espagne. Il a une cote de popularité tellement dingue qu'on lui pardonne des choses dans son comportement qu'on pardonnerait pas à d'autres joueurs, clairement. Maintenant, est-ce que cette cote-là elle va rester à vie? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours, je pense, le chouchou d'une grande partie du public madrilène à Bernabéu.
Merci Edgar.
Merci messieurs, j'étais très content de débuter l'after comme ça.
Ah bah oui, c'est historique.
C'est historique.
C'est historique. On a parlé donc d'un match européen avant la Ligue 1 dimanche soir. Dans un instant, justement, la Ligue 1, le PSG qui bat Saint-Etienne, supporter parisien, Stéphane en vous attend. Évaluation à suivre, bien sûr, les autres matchs du jour, l'actu de ce dimanche. On se retrouve tout de suite dans l'after.